La télé, c'est pas notre truc.
Voilà, nous on préfère
Radio Campus Orléans. Wild and wonderful music. 88.3 FM.
Pour quelle raison tu ne regardes plus la télé en ce moment? Tu crois que les gens délaissent la télé?
Quoi?
Est-ce que tu crois que le public...
Que se passe-t-il ici au juste? Poser des questions à des personnes qui écrivent des livres, de toutes les disciplines, sans séparer la fiction de la théorie. L'émission du fictionnaire. Le fictionnaire est le démocrate de la fiction. Des interviews longues de créateurs sur support écrit dans les disciplines des sciences humaines, de Pierre Guyotat à Bruno Latour. Le fictionnaire est cette figure curieuse de tout. Pour le futur, mieux vaut chercher l'hétérodoxie la plus grande. L'émission du fictionnaire. Bonsoir Karl, ce soir, comme toujours, nous allons parler de écologie, de notre advenir au temps de la catastrophe climatique et écologique, sauf que nous allons décaler légèrement le sujet, nous n'allons pas avoir affaire à un universitaire dans les sciences humaines directement impliqué sur ces questions-là. Léger décalage avec Mathieu Arnoux, qui est un historien de la période médiévale, qui s'était fait connaître pour son grand livre en 2012, Le temps des laboureurs. Et nous allons parler avec lui de son nouveau livre, Un monde sans ressources, besoins et sociétés en Europe au XIe, XIVe siècle. Donc, la période médiévale, mais sur cette question, vois-tu, Karl, des ressources. Or, c'est très important pour nous actuellement, à notre période de catastrophe climatique et écologique, sur cherchant à disposer d'un mode beaucoup plus écologique pour l'agriculture, pour l'élevage, et se pose la question de nos ressources, comment allons-nous faire sans l'agro-business? Voici le décalage grâce à Mathieu Arnoux. En deuxième partie d'émission, nous allons interroger un fictionnaire, quelqu'un qui écrit des fictions, mais sans utiliser le roman, donc plutôt des fictions qui sont catégorisées dans l'expérimentation, mais même si elles sont très très lisibles. C'est Lucien Raffemache, c'est le deuxième entretien avec lui, parce qu'il vient de sortir aux excellentes éditions Ogre, une météorite nommée Désir. Donc on sent déjà tout de suite le latourien qui est en toi qui se dit mais non, justement, nous avons atterri, nous ne nous intéressons plus à l'espace, fuck the météorite. Mais Lucien Raffemache peut peut-être avoir une autre idée derrière la tête. Et puis on l'interview aussi pour son autre livre, Contre Nuit. Il sort deux livres en même temps. Deuxième partie de l'entretien, juste avant notre petite pause musicale, bienvenue. Dire que nous allons aussi décaler ces histoires d'écologie par une rencontre à la médiathèque de Saint-Jean-de-la-Ruelle, ça sera jeudi 25 mai, donc c'est pas ce jeudi-là, c'est jeudi d'après. C'est à 18h30, ça dure 1h30 à 20h, vous serez rentré chez vous. Ça s'appelle Pour une écologie pirate et c'est signé de Fatima Wassak. Et donc c'est une rencontre avec Fatima Wassak, qui est la cofondatrice de Vert Dragon, la première maison de l'écologie populaire en France, à Bagnolet, le quartier où elle habite et où elle officie. Et là, nous avons affaire à une écologie populaire pour les quartiers populaires, par les habitants des quartiers populaires. Et cette optique-là aussi, elle décale beaucoup nos questions écologiques. Ça sera avec Fatima Wassak. Je vous invite fortement à y aller. Avant d'écouter l'historien de la période médiévale, Mathieu Arnoux, pour nous parler d'un monde sans ressources, Karl, nous allons aller écouter un haut niveau de musique expérimentale, ce grand moment français juste avant la French Touch, quoi. Si on dit tout de suite MASH, si on dit tout de suite Ferrari, là, on a quand même des noms qui pètent, quoi.
J'ai les poils qui sont dressés quand je t'entends parler comme ça.
Tu m'as dit tout à l'heure, c'était ton équipe d'Avengers à toi.
Ah mais oui, regarde-les, là, Bernard avec sa chemise à carreaux, les petites vestes et tout ça, là, tu les vois tous réunis dans une pièce, tu te dis que c'est potentiellement la fin d'une guerre, la fin du monde, quoi. Tous réunis, ils peuvent faire plus fort que les Avengers.
C'est la Dream Team.
C'est la Dream Team.
Alors, bon. Non, c'est vrai que ce sont des héros musicaux.
Oui, expérimentaux, plutôt, des pionniers. Hein. Voilà, on ne va pas refaire l'histoire du GRM. Donc, vous connaissez à force, j'imagine, ce concert collectif, comme il est présenté sur ce disque Prospective 21e siècle, du groupe de recherche musicale de l'ORTF. C'est vraiment intitulé pareil. C'est en fait la réunion de compositeurs et d'interprètes, tous présents dans le GRM. Donc on a des noms à la composition comme François-Bernard Mach, comme tu le disais, Ivo Malek, Luc Ferrari, François Bayle, et des interprètes en la personne de Bernard Parmigiani, Edgardo Canton, Luc Ferrari aussi s'y met, François-Bernard Mach, Michel Philippot, pardon, Philippe Carson, Jean-Étienne Marie, et François Bayle. Et tout ce monde, en fait, se mélange pour faire un disque de musique bizarre, hein, un de plus. Mais on va vous le diffuser.
Mais
on est vicieux.
Un disque de légende.
Peut-être. Moi, j'aime bien, en tout cas. Voilà, donc on va écouter une pièce très courte, forcément, parce qu'on va la couper. D'Ivo Malek, ça s'appelle Tutti. Et on va certainement entendre Luc Ferrari, François Bernard Mache à l'interprétation. C'est Radio Campus.
Émission du fictionnaire. Et on écoute ce disque de légende de la Dream Team. Bonjour Mathieu Arnoux, merci beaucoup de me recevoir dans un bureau de l'ENS. Nous parlons de votre nouveau livre, Un monde sans ressources, besoins et sociétés en Europe, 11e-14e siècle, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Votre grand livre en 2012 s'appelait Le temps des laboureurs, travail, ordre social et croissance en Europe, 11e-14e siècle. Cette fois, votre enquête historique, qui porte toujours sur la période médiévale en Europe, se confronte à ce terme « ressources ». Ce terme « ressources » n'est pas employé par les hommes et les femmes du Moyen-Âge, écrivez-vous, mais par contraste, ce mot-là, nous l'utilisons, il a pris une place démesurée dans nos sociétés actuelles. Je voudrais donc que vous nous expliquiez pourquoi vous faites usage de ce terme-là, parce que, bien entendu, vous l'expliquez en introduction de votre livre, ce n'est pas n'importe quoi d'utiliser ce terme qui n'était pas employé par les hommes et les femmes du Moyen-Âge.
Alors, bonjour, deux réponses. Premièrement, sur le lien avec le livre de 2012, travail était central. Et à un moment, s'est posé la question, mais on travaille sur quoi ? On travaille sur de la matière. Et si on essayait de mettre la matière au milieu du champ ? Et à partir de ce moment-là, cette matière, c'est à la fois du chimique, du physique, etc. C'est du vivant, beaucoup. Et le terme que nous utilisons, nous, c'est ressources. Et puis, je m'étais dit, OK, le livre va porter sur ressources. Et puis assez rapidement, un malaise. Le terme n'existe pas avec ce sens-là, au Moyen-Âge, ni même au XVIIe siècle. Une enquête assez rapide dit « ressources », c'est le doublet de résurrection. « Ressourdre », c'est ressurgir. Ça donne une résurgence d'un côté. C'est la source recommencée, mais c'est surtout la résurrection. La grande ressource, c'est le jugement dernier. Donc clairement, on n'est pas du tout dans notre champ sémantique actuel. Donc, question, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, il s'est passé une révolution industrielle et je dirais c'est là où c'est plus intéressant parce que celui que j'utilise, j'identifie comme étant l'un des coupables, si je puis dire, ou l'un des responsables du changement de sens du mot, c'est Jean-Baptiste Say, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui pense la révolution industrielle au moment où elle se passe en Angleterre, mais avant qu'elle se passe en France, avec ces textes qui sont des textes magnifiques, où les ressources sont autant biomasse et renouvelables qu'il n'y a quasiment pas de charbon chez Jean-Baptiste Say. Donc on a ce passage qui est un passage doux, puisqu'il pense la révolution industrielle comme un possible de l'histoire de la France et du coup probablement ça a aidé ce mot à prendre un sens qu'il a absolument définitivement dans les années 1840 et qu'on utilise, je dirais, sans aucune difficulté, puisque ça nous paraît un mot qui n'a aucune culpabilité sur lui. Il est qu'est-ce que c'est la ressource? C'est quelque chose qui est là en attendant de voir si on peut l'utiliser à quelque chose ou dont on sait qu'on peut l'utiliser à quelque chose et dont on pense qu'on pourra l'utiliser à quelque chose. Donc ressource, c'est ça. Et donc j'utilise un peu cette image du grand magasin dans lequel on va se servir sans payer. Je crois que là je suis sur un thème contemporain, un petit peu polémique ou très polémique. Jamais personne n'a réfléchi comme ça auparavant. L'idée qu'on aille se servir dans la création est une idée qui ferait horreur à un chrétien, et je pense dans toutes les grandes religions anciennes, on ne se sert pas de la nature de cette manière-là. Et donc là, j'ai écouté et lu longuement Philippe Descola, mais je pense que le christianisme ancien n'est pas très différent des cultures qu'il examine, c'est-à-dire que on doit y faire attention à ce qu'on fait. Il y a des textes très célèbres de François d'Assise sur le sujet. Donc c'était l'hypothèse est celle-là. Mais si on n'a pas de ressources dans le système de pensée, qu'est-ce qu'on a? Et on tombe sur un deuxième mot merveilleux, quel mot besoin? Mot immense. Qui a de temps en temps attiré l'attention des philosophes, Agnès Heller en dernier, mais d'autres avant. Mot très étrange parce que c'est un mot germanique qui n'a laissé aucune trace en allemand, et c'est le petit frère, à nouveau, on a des questions de famille, c'est le petit frère du mot soin. Donc, et le domaine du besoin et du soin, c'est exactement l'ensemble du domaine du care. C'est le manque, c'est l'insuffisance, c'est la dépendance, et c'est l'ensemble des attentions qu'on adresse aux situations de dépendance et de manque.
Alors, vous écrivez qu'il n'est pas d'usage chez les historiens d'interroger les sources médiévales sur la question des ressources. Et une des premières sources que vous utilisez, c'est le roman de Renard. Et le roman de Renard, vous allez en faire une lecture, justement, avec votre sujet sur les ressources, sur les besoins. Et là, on comprend la place que vous faites au roman de Renard lorsque vous écrivez ceci, et j'aimerais que vous nous expliquiez. Je vous cite. « À sa manière, la construction dystopique qu'est le roman de Renard raconte, du point de vue des animaux, un moment critique de transition entre deux régimes de subsistance, dont le premier est caractérisé par un fonctionnement en flux, propre aux écosystèmes naturels, tandis que le second est défini par le régime de stock des espaces humanisés. Pouvez-vous nous expliquer, s'il vous plaît ?
Alors, longue fréquentation, je dirais, j'ai courtisé le roman de Renard pendant des décennies, mais probablement comme beaucoup de mes collègues. On était frustrés parce que la datation de l'œuvre était impossible à cadrer. On nous donnait trois quarts de siècle de variation. Quand on travaille sur le Moyen-Âge, on ne peut pas se permettre trois quarts de siècle de variation entre 1150 et 1250, quelque part. À un moment, des philologues, un philologue, François Dufferet, je crois qu'il faut lui rendre justice, dit non, on peut, on doit comprendre qui est Pierre de Saint-Cloud, l'auteur des récits initiaux, des premières branches de l'arbre. Et on est là dans les dernières décennies du XIIe siècle et on est dans le monde anglo-normand. Bon. Et là, d'un seul coup, les questions deviennent beaucoup, beaucoup plus précises. Renard peut commencer à parler, il a des raisons de nous dire des choses. Alors, on commence par faire le ménage. L'histoire assez, même extrêmement crue de Renard, c'est comme la colère d'Achille, c'est la colère d'Isengrin, parce que Renard a violé Hersant de la Louve. Les pages sont des pages d'une crudité extrêmement, extrêmement perturbante. Ce sont des pages que moi, personnellement, je ne pourrais pas lire à haute voix à mes étudiants. Première pelure dans cet oignon gigantesque, Renard est un dérivé extraordinairement sarcastique et obscène de Tristan et Iseut. Nous avions appris à lire Tristan et Iseut autrement, mais là, nous avons une espèce de brutalité intense dans cette chose-là. Et puis, deuxième chose, et là, il faut se retourner vers les historiens de la littérature et vers les philologues à nouveau. La construction qui est initié par Pierre de Saint-Cloud, c'est il y a une innovation absolument merveilleuse qui est ces animaux sont des animaux. Il fait partie des grands dessinateurs d'esquisses animalières avant La Fontaine ou d'autres. Ces animaux ont une taille, ont rampe, etc. Et l'une des questions qu'on se pose, c'est mais en fait, quelle est la situation? Parce que ces animaux sont en même temps des seigneurs. Il y a le roi qui est noble le lion, il y a son connétable qui est Isengrin le loup, il y a des sénéchaux, il y a des. Et qui sont sangliers, daims, ours, etc. Donc il y a une société féodale des animaux. Et on a cette chose extrêmement paradoxale qu'en plein milieu du XIIe siècle, qui est l'ascension de la société féodale, on nous décrit des seigneurs féodaux qui meurent de faim. Et la question, c'est est-ce que ce sont les seigneurs qui meurent de faim ou est-ce que ce sont les animaux? Et un des points qui m'a beaucoup, beaucoup intrigué, c'est que dans mes lectures, je tombe sur un texte relatif à l'une des foires de Champagne, la foire de Lagny, où on a la liste des fourrures qui sont en vente à la foire de Lagny. Et quasiment dans l'ordre, il n'y a pas de fourrure de lion en vente ou de léopard, mais tous les autres y sont. Tibère le chat doit être un lynx, très probablement, ou doit être un grand chat sauvage. On a du chat, du renard, du loup, du daim, tous les animaux sont en vente, dépouillés, sur les étaux de la foire de Lagny. Donc, on a une des toutes premières branches, Renard, par ruse, s'étend sur la route et des marchands passent et estiment la valeur de sa peau. Donc ces animaux sont en train d'être marchandisés. Alors qu'il n'y a aucun marché dans le roman de Renard,
Il n'y a pas d'argent dans le roman de Renard. C'est la seule apparition de l'argent, c'est ce moment-là. Et c'est une illusion pour les marchands. Donc on a une dystopie, réellement. Il essaye de montrer une société où il y a féodaux et paysans. Les paysans sont des humains, ils sont d'une brutalité épouvantable. Et surtout, ils sont en train de mettre en pièces le royaume des animaux. Et là, je dirais, on est immédiatement du côté de Bruno Latour. Ces animaux sont en train de parler écologie. La séquence est réitérée à plusieurs reprises. Renard et les autres courent et sont bloqués. Une haie, un mur, un village neuf, et qui est appelé village neuf. Une abbaye cistercienne. Les cisterciens sont les ennemis absolus de ces animaux-là. Et d'un seul coup, on comprend qu'on a affaire à une magnifique description de la croissance agraire qui, à ce moment-là, est au maximum de sa vigueur et qui est en train de mettre en pièces le royaume des animaux. Derrière ça, et c'est là qu'on voit la maestria de ça, il y a une question sociale. C'est-à-dire que la croissance agraire va de pair avec quelque chose qui est soigneusement dissimulé dans le roman, qui est la construction de l'État et la construction de l'Église. L'Église a été instantanément mise hors du paysage. Le seul représentant de l'Église, c'est le chameau qui est un légat pontifical et qui porte le nom de Musard, c'est-à-dire le crétin. Donc l'Église n'existe pas dans le roman de Renard. Il y a un affrontement seigneur-paysan et animaux-paysan. Et dans cet affrontement, les seigneurs qui étaient habitués, nous dit Georges Duby dans Guerriers et paysans, à la vie en flux du pillage régulier des ressources des autres seigneuries, doivent s'obliger à passer en stock, c'est-à-dire à négocier à la fois avec la nature et avec l'intermédiaire de la nature, qui est le paysan.
Oui, d'ailleurs, vous écrivez que le roman de Renard est une source négligée en éco-histoire et que de l'interroger la manière dont vous le faites, justement, ça souligne véritablement ce passage qui est... Enfin, vous écrivez que le roman de Renard raconte l'agonie de la société sauvage. C'est-à-dire qu'à partir du roman de Renard, vous pouvez vraiment, on va dire, dater un passage à une société, à une autre. Et ce terme que vous employez, l'agonie du monde sauvage, enfin, tout de même, ce n'est pas rien.
Alors, je crois qu'il faut se rendre compte qu'entre, allez, 1050 et 1250, la population est multipliée par 4 ou 5. Comment ça se passe ? Ça se passe par une extension gigantesque de la surface agraire, ce qu'on appelle les grands défrichements, c'est faute de mieux, mais on parle de dizaines de millions d'hectares mis en culture. Le régime antérieur, c'est une nature englobante et des champs qu'on cultive et qu'on abandonne, et le terroir est un peu erratique. Et puis là, on passe d'un seul coup à quelque chose qui est... Là, je reprends ma casquette de scientifique travaillant dans un laboratoire d'énergie. On passe dans un système d'exploitation rationnel et construit de la biomasse, on va utiliser la photosynthèse d'un côté, l'élevage de l'autre, et les animaux qui sont autour de Noble le Lion ne sont pas des animaux domesticables, ce sont des animaux de zoo mais pas de ou de parc, mais pas des animaux. Il n'y a pas de bœufs, il n'y a pas de moutons. Donc on a un système qui se met en place Et le roman de Renard est la critique de ce système. De manière drôle, obscène et truculente, mais c'est quand même une critique, et c'est là où mes collègues, en particulier physiciens, m'ont dit « mais tu as le passage de deux régimes, d'un régime thermodynamique à un autre régime thermodynamique, la conduite en flux, qui est celle des écosystèmes. Les animaux sont dans un écosystème. Et puis, on passe dans un système agraire. Alors, il reste renouvelable. Il est totalement renouvelable. Mais il passe par une intensification, par la construction de stocks. Et ce qui fascine, exaspère, rend les animaux avides, c'est... qu'est-ce que c'est qu'une ville neuve avec les paysans dedans ? C'est un stock de grains, ça n'intéresse pas beaucoup les animaux, le grain, mais par contre, un stock de grains, c'est un stock de souris, et pour le chat, un stock de souris, c'est intéressant. Une ruche, c'est un stock de miel, et puis ce qui traîne, ce qui pend au plafond, c'est des stocks de viande conservée et... pour tous les animaux, c'est Noël. Et donc, il y a cette idée que les animaux et ou / seigneurs veulent se servir, et que les paysans tapent à coups de bâton, et que les cisterciens tapent aussi à coups de bâton.
Voilà, vous avez prononcé le mot sur lequel je vais vous interroger maintenant, puisque votre deuxième grande source... proviennent de l'ordre cistercien, et vous écrivez « C'est dans le modèle gestionnaire cistercien que s'observe ce qui ressemble le plus à notre concept de ressource. »
Alors là aussi, vieille obsession, les cisterciens, c'est très 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 intéressant. Moi, j'ai toujours été très surpris par le... des pages absolument déraisonnables de Georges Duby disant « il y a une crise, sitôt s'enrichit ». On me dit, vu que dans ce monde-là, tout le monde cherche à devenir riche, que sitôt soit enrichi est à retenir à leur crédit et pas à leur débit. Tant d'autres gens ont essayé et n'y sont pas parvenus. Alors, c'est en partant de Renard, en partant de... on court à travers la forêt, on cogne sur un mur, et c'est une abbaye. Les cisterciens, c'est un objet très extraordinaire. Il y a 1098 sitôt, puis les quatre filles, Pontigny, Morimont, La Ferté et Clairvaux, sont une quinzaine d'années plus tard. Et puis, très rapidement, 300, 600, plus de 1000 abbayes dans la première moitié du XIIIe siècle. C'est un ordre absolument considérable. Et dès les années 1130, il y a quelque chose qui ressemble à une espèce d'algorithme de répartition dans l'espace. Il y a un texte qui dit 5 lieues entre deux abbayes, 1 lieue entre une abbaye et ses granges, 10 lieues entre une abbaye de frères et une abbaye de sœurs, etc. Et puis on a les frères jumeaux des cisterciens qui sont les chanoines de Prémontré, on va les intégrer à l'algorithme, et on a d'un seul coup ce système qui peuple l'Europe depuis la Transylvanie jusqu'à l'Irlande, depuis les Pouilles ou la Sicile ou la Castille et le Portugal jusqu'à la Suède. Donc c'est une des définitions de l'Europe possible, l'espace cistercien. Et puis, il y a cette chose très, très singulière. Tous les ans, le 14 septembre, jour de l'exaltation de la Sainte Croix, tous les abbés, en principe, se retrouvent à l'abbaye de Cîteaux, et ils ont quelque chose qui ressemble étrangement à un séminaire de gestion. Ils vont prier, Mais quand même, il y a probablement 700, 800, 900 personnes qui sont là dans l'abbaye de Clairvaux, qui vont parler des sujets qui fâchent ou des sujets qui réunissent. Ils vont bien évidemment chanter et dire la messe. On a ces textes qui sont les statuts du chapitre général, à chaque fois 15 lignes, disant voilà, ou peut-être un peu plus, voilà le problème, voilà la solution.
Et si vous voulez la suite, eh bien, ça sera dès demain sur le site de l'émission du Fictionnaire, www.émissiondufictionnaire.fr. Sur Google, on retrouve ça très, 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 très facilement. Vous aurez l'heure entière d'interview avec l'historien médiéviste Mathieu Arnoux. Nous allons passer la deuxième partie de cette émission du Fictionnaire avec l'écrivain, expérimentateur, en tout cas qui fait de la fiction, Lucien Raffemage. Pour une autre manière peut-être d'aborder notre sujet écologique, ça sera pour son nouveau livre « Une météorite nommée Désir, mais avant la prêtresse de la musique électronique grecque ».
Elle n'était pas grecque, mais elle est morte en Grèce. Ouais,
la sainte défunte.
La sainte défunte. Sophie, vous en avez peut-être entendu parler. Alors Moé, Dominique m'a dit que j'en avais pas passé. C'est bien possible. Du coup, on se rattrape si c'est pas le cas. Et puis bah, tant pis si c'était déjà le cas.
Jolie pochette.
Un album, effectivement. Très bel artwork, comme on dit. Il s'intitule « Oil of Every Pearls and Insides ». Et on va s'écouter le morceau « Face Shopping ». Voilà, l'album doit avoir 3 ans, je ne sais plus. Et en tout cas, elle est décédée. Et la carrière est terminée.
Mais triste. Nous nous consolons avec un beau vinyle rouge.
Tout à fait.
Et sa musique, l'émission du Fictionnaire, Radio Campus Orléans.
My face is the front of shop. My face is the real shop front. My shop is the face I front. I'm real when I shop my face.
Bonjour Lucien Raffemage, nous allons réaliser ensemble le deuxième entretien pour la sortie de vos deux nouveaux livres. Je tiens dans la main gauche Contre Nuit, je tiens dans la main droite Une météorite nommée Désir. Tous les deux viennent de sortir en librairie. Je renvoie les auditrices, les auditeurs au premier entretien d'environ une heure que nous avions eu il y a 3 ans maintenant pour vos deux précédents livres. Vous y dites beaucoup de choses sur la désidération notamment et de votre travail avec l'artiste Smith. La désidération, ça tombe bien, je vais vous réinterroger dessus puisque votre livre « Contre nuit » qui pourrait se lire comme aussi une introduction théorique à votre deuxième livre « Une météorite nommée Désir » qui pourrait en être, on va dire, le pendant fictionnel sur le point de vue, enfin, d'un point de vue littéraire. Ce livre « Contre nuit » s'ouvre par des extraits de texte « La désidération engendre le désir » du philosophe Jean-Luc Nancy. J'aimerais que nous parliez de ces extraits de toujours ce terme « désidération » qui est là, présent et qui ouvre ce livre « Contre nuit ».
Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très, très honoré de participer à cet ensemble de voix qui constituent cette émission du fictionnaire. C'est quelque chose qui est assez important, je pense, d'entendre les voix des personnes et d'entendre aussi la pensée telle qu'elle se décline dans des imaginaires. Et c'est vrai qu'on est au XXe siècle habité de beaucoup de voix qui ont accomplissent cette traversée qui nous amène non seulement à la philosophie, mais aussi à l'écriture de fiction et aussi à un travail, je crois, de décentrement. Ce dont témoigne Jean-Luc Nancy, c'est aussi de cette façon de pratiquer la philosophie et le rapport à l'expérience que représente donc le désastre du XXe siècle par rapport à nos représentations du monde et notre façon de sentir le monde. Le premier extrait vient de justement un livre qui s'appelle Le sens du monde, qui est un recueil de textes qu'il a mis ensemble, mais qui est bien la question de notre désorientation contemporaine. On s'est longtemps fié aux étoiles pour trouver une sorte de boussole, et au XXe siècle, il semble qu'on ait perdu le sens à la fois des étoiles, mais aussi le sens de la Terre. Et c'était ça que reflétait notre volonté, en tout cas notre lecture de la désidération. C'était pas de dire qu'il fallait retrouver en quelque sorte le sens des étoiles, car cela, on peut le retrouver dans le mouvement de la conquête spatiale ou dans le New Space contemporain, et c'était absolument pas ça, bien sûr, dont il était question dans la désidération, mais de réunir en fait la Terre et le ciel et différentes choses qui avaient été séparées au cours de la période moderne et qui devait être réagencé, ou en tout cas relié, remédié d'une nouvelle façon. Et c'était cet effort qui avait donc différentes dimensions, et qui n'était pas uniquement en fait une démarche artistique, mais une démarche qui se voulait indisciplinaire, comme on dit avec Smith, c'est-à-dire pas simplement une démarche qui conjugue différentes expériences, ou qui les traverse, mais qui est elle-même traversée, et qui elle-même fait bouger pour chaque domaine du savoir quelque chose de commun et qui altère profondément notre façon de voir, de recevoir, de sentir le monde. Donc c'était quelque chose qui allait au-delà de la simple présentation d'une pensée, d'une théorie ou autre chose aussi qu'une esthétique. Et donc ça, c'était une démarche donc qu'on a commencé il y a déjà quelques années et qu'on a continué effectivement ensemble un bon moment. Et puis est arrivé 2020 et qui a mis un suspens, un arrêt de monde, comme on peut dire, à ce travail sur la désidération et notamment sur la question qui arrivait pour nous, la question de la communauté, la question du politique. Et c'est des choses sur lesquelles Jean-Luc Nancy a été assez important, bien sûr, à bien des égards, et qui est aussi un grand défi de notre temps, c'est-à-dire que les entreprises, les pensées sur comment faire communauté, comment rassembler toutes ces initiatives écologiques, anthropologiques, qui visent à ce décentrement, un peu comme récemment je lisais le petit mémo sur la classe écologique, notamment écrit avec un des derniers textes de Bruno Latour. Il y a cette préoccupation de comment on amorce ces bifurcations de notre façon de voir le monde et d'agir dans le monde, de produire de se relier. Donc c'est à cette question-là que, n'ayant pas l'opportunité de le prolonger directement en 2020, commencer une réflexion au long terme, et je pense qu'il y aura encore des prolongements dans les années à venir, sur qu'est-ce qu'on fait de cette politique du ciel, comment on fait cette politique de la terre, et comment on les relie les deux ensemble et ne pas les séparer. Je crois que c'est un des aspects cruciaux, et je crois que dans Contre-Nuit, il y avait cette idée de réactiver quelque chose de la politique, même si je ne me sentais pas légitime quelque part pour parler de l'ensemble de ces données-là, puisqu'on a toujours l'impression d'être débordé par la question du politique, la question de l'engagement, la question des changements et de la manière, on va dire, une sorte de parole combinatoire qui nous dirait mais comment allez-vous réaliser une sorte de programme que serait la décidération. Je crois qu'il n'y a pas de programme, il y a une sorte d'ensemble de ramifications qu'on essaie de faire croître dans multiples directions. Et c'est, je crois, aussi ce qui explique la structure du livre, qui mêle différentes strates de temps, qui mêle différentes strates de types de discours, qui mêle des choses qui sont plus théoriques, des choses qui sont plus poétiques, des choses qui sont intimes, des choses qui sont plus génériques, en tout cas qui espèrent toucher une sorte de genre neutre et assimilable par le plus grand nombre d'espèces possibles ou d'entités. Donc je crois que tout ça s'inscrit dans un mouvement qui ne cesse de se répéter à la fois et de varier, voilà, en différence et répétition, pour essayer de créer dans l'objet même du livre, dans la Contre-Nuit, une sorte de mouvement vivant. Alors c'est peut-être une banalité de présenter les choses de cette manière, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment essayé de faire, qui m'est très cher, c'est-à-dire de ne pas faire un livre qui soit en fait tenu par cette unicité qui est présente par la forme du livre, qui est présente par la structure mentale du livre, et de faire quelque chose qui puisse rayonner et aller dans des directions multiples, et à cet égard pas redonner forcément une boussole comme souhaitait René Latour, mais différentes directions, différentes possibles, et d'ouvrir ces possibles à travers le texte.
Alors, un des premiers gestes que vous effectuez, on pourrait le trouver dans ce texte qui s'appelle « Des étoiles mineures ». Bien entendu, connaissant votre penchant pour Antoine Volodine, j'ai immédiatement pensé aux anges mineurs. Votre sous-titre est fait exprès. Ce texte qu'on lit sous ce titre-là, « Des étoiles mineures », il est très très clair sur la perte de regard vers l'espace, vers le ciel. Je vais vous lire quelques extraits. « Les étoiles sont devenues en minorité dans notre expérience du monde, obsolescence du ciel. Notre être aux étoiles est diminué plus qu'à aucune autre époque de l'humanité. » Et vous continuez ainsi. « Alors que la pensée devrait être galactique, jamais les étoiles n'ont été moins réelles pour nous et de concert leur imaginaire plus absent. » C'est-à-dire que vous êtes là véritablement très très clair. Or, vous venez de parler à deux reprises de Bruno Latour, notamment son dernier livre. Et on sait bien que Bruno Latour, à partir de son livre de 2017, « Où atterrir », a souhaité aussi nous couper de l'espace, c'est-à-dire théoriser le terrestre, mais un terrestre où il n'y aurait pas d'extraterrestre, un terrestre où l'injonction serait regarder plutôt la Terre, plutôt la planète, on va dire, et essayons de nous intéresser à la Terre et à la planète plutôt que d'aller à nouveau encore regarder dans le ciel, dans l'espace. Et bien entendu, surtout, c'était contre des tentatives à la Elon Musk qui sont assez grossières de dire on va pouvoir y habiter, on va pouvoir fuir dans l'espace. Ça, c'est vraiment le truc le plus, on va dire, extrémiste et assez grossier et faux technologiquement. Et Bruno Latour a donné l'impression qu'il nous cherchait à nous couper de l'espace. Or là, vous êtes assez assez claire. Et je suis en plein accord avec vous. Et j'étais heureux de lire votre texte parce que les étoiles, effectivement, ont disparu de notre regard.
Tout à fait. C'était une volonté au départ de donner un diagnostic assez clair et notamment d'un paradoxe, c'est-à-dire que jamais on a mieux connu les étoiles, on en détecte tous les jours davantage des nébuleuses, des planètes, et pourtant jamais on en a moins connu les réalités. Si j'amène des gens face à des images de Mars, ils vont dire c'est Mars, sans aucun doute. Par contre, je les amène devant un ciel étoilé, je pense que la plupart ne saura pas distinguer Jupiter, par exemple, qui est quand même assez massive et présent quasiment même dans nos ciels pollués. Ils ne sauront pas distinguer Mars, ni les constellations au-delà des grandes constellations majeures. Et c'est pas un regret, je ne dis pas que tout le monde devrait connaître les étoiles, mais ça témoigne d'une sorte de disjonction entre l'expérience et le mental. Et c'est ça que je voulais souligner de prime abord. Et effectivement, cette séparation que Bruno Latour rejoue entre la Terre et le ciel me semble assez peu compréhensible. Et en tout cas, c'est vrai que c'est un pas de côté vis-à-vis de ça et une volonté de raconter un autre récit, puisque c'est une des expériences les plus fondamentales que de se confronter à un ciel étoilé et d'être ému ou de sentir quelque chose qui va au-delà de la simple esthétique, qui a une sorte de vertige et aussi qui met en cause la pensée, puisque la pensée vient sûrement du vertige. Et il me semble que c'était extrêmement important de souligner ce fait et d'essayer de trouver d'autres façons de raconter en fait le rapport de ce qu'on considère comme une extériorité, un dehors absolu qui serait l'espace, et un terrestre qui serait une intimité, une chaleur, une proximité. Cette façon de découper le monde, là effectivement on est dans des sphères assez intellectuelles ou assez abstraites, philosophique, mais en fait ça a une conséquence en fait sur les façons en fait de percevoir les choses dans le monde. En fait, on a l'impression que la philosophie ne parle qu'aux philosophes, que l'astronomie ne parle qu'aux astronomes, et c'est ça bien qu'on voulait questionner dans Desideration. C'est pour ça que je disais que cet aspect indisciplinaire, c'était bien de faire éclater ces frontières-là des savoirs et dire que l'astronomie, ça concerne notre façon de vivre dans le monde. La philosophie, c'est de même, c'est pas un discours extérieur qui vient de se plaquer, mais plutôt de reconnaître un certain nombre de devenirs, de processus, de façons de se rapporter effectivement à une expérience, d'où l'expression bien sûr des étoiles mineures qui est un clin d'œil à Volodine, mais aussi à Deleuze et Guattari, hein, avec cette question de la minorité et de la reconnaissance que même si les étoiles sont innombrables et sont en nombre majoritaire dans notre regard, eh bien elles sont en minorité dans notre façon de concevoir le monde, où notre rapport aux étoiles est devenu une pure extériorité, alors qu'elles sont intimement liées à notre histoire, alors là, telle que la science nous l'a apporté comme façon de comprendre qu'on est constitué par des atomes qui datent du Big Bang et autres, certes, mais au-delà de ça, ce qui est ce grand mystère de la continuité et de la discontinuité, et qui, dans ce hiatus, produit, je crois, quelque chose d'assez intéressant qui est la pensée.
Parce que vous allez même plus loin, enfin, j'ai peut-être jamais trouvé quelque chose d'aussi clairement énoncé. Je vous lis. La nuit fabrique nos imaginaires. Et aujourd'hui, notre imaginaire du cosmos est un combustible qui prend feu. Nous-mêmes prenons feu. Enfin, là, vous êtes très très clair, Lucien Raffemage. On sait que vous parlez de la catastrophe climatique et écologique. On sait très clairement que vous parliez de cette nouvelle époque qui s'appelle l'Anthropocène. Et votre phrase d'après est très très claire. Hors sol, car aussi hors ciel. Là, véritablement, on sait très bien que Bruno Latour a beaucoup théorisé le hors-sol et qu'il trouvait que le moderne était hors-sol et que le terrestre, qu'il appelle de ses voeux, est celui qui doit justement retrouver le sol. Et comme il voulait nous couper de l'espace, vous avez cette formule. Et je ne l'ai trouvée nulle part formulée aussi clairement, parce que nous sommes plusieurs. Je pense aussi à Ariel Kirou, par exemple, qui fait aussi ce reproche de Bruno Latour, de nous couper de l'espace. Et Ariel Kirou, il le théorise à partir, lui, de la science-fiction. Donc le corpus de la science-fiction, c'est ce qui lui permet de lire à nouveau frais Bruno Latour et de s'apercevoir effectivement que non, il ne faut pas nous couper de cet imaginaire spatial, que la science-fiction nous rapproche de cela. Or là, soudain, votre formule est voilà, la plus lapidaire, la plus concise, la plus explicite, hors sol, car aussi hors ciel. Et donc, si on veut retrouver le sol, eh bien, il nous faut retrouver le ciel.
Oui, et je crois beaucoup de choses convergentes dans notre analyse. Et c'est vrai que on pourrait même, enfin, appuyer sur les jeux de mots, mais je sais pas si c'est pertinent. Mais effectivement, le sol, c'est aussi, si on prend en latin, c'est le soleil. Donc en fait, on est aussi dépendant de l'énergie solaire. Enfin, c'est vrai que cette façon, en fait, de redécouper le monde sur cette opposition, je crois que il y avait beaucoup de philosophes, notamment, qui étaient des maîtres à penser pour Latour, comme Donna Haraway ou Isabelle Stengers, qui soulignaient cet aspect un peu conflictuel qui avait toujours présent dans la pensée de Bruno Latour, cette nécessité un peu guerrière. Et c'est vrai que ces autres philosophes avaient une autre tradition qu'on retrouve chez Vinciane Després, qu'on retrouve chez Baptiste Morisot, qu'on retrouve dans cette idée de diplomatie, dans lequel on va avoir un autre rapport, en fait, là aussi au phénomène, par exemple, entre le visible et l'invisible, entre effectivement le terrestre et le céleste, qui est beaucoup plus trouble, en fait. Ce n'est pas aussi tranché. Et c'est là où revient la question de la politique. C'est-à-dire que la politique demande des lignes de force et des oppositions, en fait, pour diriger l'action. Et c'est là où se pose la question de comment en arriver à une politique de... Non, je ne vais pas dire une politique de la décélération, ce n'est pas en soi une politique, mais effectivement une politique à la hauteur, en fait, du monde dans lequel nous sommes, ce monde abîmé, ce monde dans lequel on n'arrive plus à regarder, en fait, le vivant et le non-vivant dans leur spécificité et dans leur continuité. Et c'est ça qui est en question, oui, assez profondément. Et puis je pense aussi au travail de Frédéric Nera, qui travaille sur l'aliénocène, qui est aussi assez critique de des notions dans lesquelles l'ailleurs ou le dehors est rejeté dans un cosmos infini, et d'essayer de le rapprocher de nous, en fait, de dire que le dehors, bien sûr, il est en nous autant qu'en dehors de nous. Et c'est vrai que c'est un travail de brouillage des frontières sur lequel on est de nombreux, en fait, à travailler. C'est vrai que c'est pour ça qu'il y a eu toujours une dimension collective à ces mouvements-là, qui fait que c'est compliqué de signer d'un nom d'auteur. D'ailleurs, un livre, je trouve, enfin, ça m'apparaît de plus en plus frappant. J'ai plutôt envie d'appartenir à des collectifs ou à des choses où on travaille en commun, parce que là aussi, si on veut mettre en avant une intelligence collective, de dire qu'on va travailler avec le non-humain, etc., pourquoi on s'attache toujours à cette figure de la subjectivité individuelle? Qu'est-ce qui ne va pas là aussi, même d'un point de vue de la politique de l'auteur, de sa représentation? Ce qui fait, bien sûr, la nécessité d'avoir une sorte de cheval de Troie, et quand même d'essayer de faire passer une mutation, et une mutation qui passe forcément par un stade intermédiaire où on commence à faire bouger les choses. Et je crois que j'essaye, en tout cas dans Contre-Nuit, de faire appel à plusieurs voix en moi, de plusieurs voix là aussi, que ce soit dans les médiations qu'on fait autour de ces projets-là. Et je dois remercier les éditions Abruptes, qui font un travail exceptionnel là aussi pour mettre en scène numériquement, pour donner accès au texte aussi gratuitement sur leur site, et dans des versions à la fois donc numériques et dans des créations, hein, puisqu'il y a une création qui a été faite à partir de Contre-Nuit, qui est une autre façon aussi de rentrer dans le texte à travers une sorte d'anneau de Saturne qui miroite dans le fond d'une nuit assez exceptionnelle, qui est dans la nuit du réseau.
J'aimerais que vous parliez un petit peu de Frédéric Nera. ce philosophe que vous veniez de citer. Un de ses derniers livres s'appelle « Ange noir de l'histoire, cosmos et technique de l'afrofuturisme ». Ça fait déjà un certain temps qu'il tourne autour du sujet de l'afrofuturisme. J'aime beaucoup également les livres de Frédéric Néra. Je renvoie les auditrices et les auditeurs au long entretien que j'avais eu avec lui pour une partie de son œuvre. C'est lui aussi qui a introduit le concept de planétaire, hein, qu'il reprend du grand historien Dipesh Chakrabarty. C'est lui quand même un des premiers à l'avoir introduit en France, il me semble, le concept de planétaire, qui répond aussi et qui tente de résoudre la contradiction qu'avait bien vu Bruno Latour entre le global et le local, en fait, et que le terme de planétaire est une des possibilités, du moins réflexives. Et vous avez parlé du site que mène Frédéric Néra depuis de nombreuses années, et c'est vrai que là-dessus, il théorise beaucoup ce concept aliénocène. Ce n'est pas rien, c'est l'anthropocène, mais qui est relié, enfin, les questions d'anthropocène, qu'il le travaille beaucoup, qui est relié justement à l'ailleurs, à l'alien, au grand autre. Je veux bien que vous nous parliez de Frédéric Néra, parce que dans votre livre Contre Nuit, Lucien Raffmage, c'est aussi une somme d'auteurs qui sont convoqués avec vous. Bien entendu, vous parliez de la politique de l'auteur, et à juste titre, parce que à l'âge de l'Anthropocène, effectivement, ça fait bien pâle figure, cet auteur individuel qui cherche toujours à inventer son concept et à le valoriser pour peut-être garder un brin de postérité. Vous convoquez énormément d'auteurs, justement, dans ce livre-là, pour essayer de faire commun, de faire communauté. Vous n'avancez pas seul.
Non, tout à fait. C'est une joie de retrouver d'autres pensées et d'essayer de s'ajointer, même si on est encore assez distants les uns les autres et on ne sait pas encore comment se rapprocher, on est un peu comme des étoiles qui tentons de faire une constellation. C'est vrai que la pensée de Frédéric Néra me touche beaucoup, à la fois dans la façon dont il a de nous ramener à l'afrofuturisme, qui nous dit un rapport à la perte. Là aussi, c'est l'histoire de la traite négrière et de la façon dont on hérite de cette histoire, des ruines de l'histoire, qui est aussi l'histoire du capitalisme. Et ce que dit Frédéric Néra, c'est qu'ils sont en avance, toute cette communauté afro-américaine et africaine, puisqu'ils ont eu à hériter de cet impossible qui est d'être amené à être sans histoire et à vivre dans les décombres du capitalisme et devoir s'inventer. Et de s'inventer en défaisant l'espace-temps, et ce qui a donné avec Sun Ra l'afrofuturisme, et qui ce côté fou et ce côté prometteur, et c'est ce qui est beau, je trouve, dans le terme d'aliénocène, de même que dans le Cthulhucène de Narraway, c'est de dire que c'est pas une tentative, il y en a tellement aujourd'hui, de définir un temps qui est le nôtre, qui est l'anthropocène. Je pense que pourra toujours dire c'est le capitalocène, c'est le plantationocène, etc. Mais là, c'est de se projeter, en fait, c'est-à-dire d'ouvrir une autre séquence. C'est ça que...
Désolé. Après cette interruption venue d'ailleurs, nous parlions donc de Frédéric Néra, que vous utilisez dans votre livre.
Je ne sais pas si je l'utilise, je le convoque, j'essaye de tisser une sorte de lien avec cette aliénocène qui est aussi là, ce que faisait remarquer une de ses amies, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'aliénocène, et on peut entendre dire aussi l'absence de lien. Et en tout cas, dans cette pensée, il y a beaucoup de choses qui me touchent, notamment un renversement, des renversements effectivement de cette pensée de la Terre vers son altérité et son altération depuis notre espace Terre, et la façon de résister en fait à un devenir, à une dématérialisation, à ce qu'on aurait pu appeler le hors-sol, par la question de la mémoire, la question de l'impossible et la façon dont il convoque aussi Walter Benjamin, dont je parle aussi dans mon travail, en tout cas pas dans mon travail, dans ce livre de Contre-Nuit, pour penser la rupture qui se passe au XXe siècle à travers le désastre de la Première Guerre mondiale et du traumatisme, et la façon dont, en fait, il y a toute une expérience du monde qui est transformée et qui se peine à dire, et qui aussi, l'histoire de l'impossible des révolutions, et la question de l'ange de l'histoire, dont il parlait dans son livre, c'est aussi cette figure donc très émouvante de Benjamin, qui raconte cet ange qui est tourné vers le passé et qui est poussé à travers les ruines vers l'avenir, qui est une façon de renverser en fait les temporalités, puisque le messianique ne vient pas d'une sorte de futur, d'une parousie, d'une venue d'un messie qui ne viendra jamais, ou...